Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, un patrimoine radiophonique.
On emploie, en français, bien des expressions familières dont on ignore l'origine. Des expressions intraduisibles mais qui donnent une saveur particulière et des images spécifiques à une langue. Claude Duneton, écrivain, romancier, traducteur, historien du langage, mort en 2012, a passé une belle partie de sa vie à maintenir vivante la polyphonie et la diversité du français. Il maintient ou réintroduit dans la langue la plus raffinée une tradition orale, souvent bien plus verte qu'on ne l'imagine. Il a écrit des livres à déguster sans modération, dont un intitulé « La puce à l'oreille », qui est une anthologie des expressions populaires avec leur origine. La puce à l'oreille est éditée chez Stock et repris dans une nouvelle édition, revue et augmentée en 2001 aux éditions Ballant. C'est à l'occasion de la sortie de ce livre que Gilles Lapouge avait invité Claude Duneton dans Agora.
Claude Duneton, vous avez écrit un livre épatin, et le titre de ce livre aussi est épatin, La puce à l'oreille. Du reste, en général, vous choisissez des titres qui sont ou bien jolis, ou bien un petit peu étranges, mais qui, moi, me plaisent. Le premier, c'était Par les croquins, c'était un livre qui portait sur le langage. Ensuite, il y a eu Je suis comme une truie qui doute, alors là, c'est un petit peu mystérieux. Oui. Le troisième, Anti-manuel de français, là c'est moins brillant, il faut dire, comme titre. Par contre, le livre, lui, est brillant. Aujourd'hui, La puce à l'oreille. La puce à l'oreille, c'est un livre qui porte sur les expressions populaires. Toutes ces expressions que nous employons sans y songer et dont nous ignorons l'origine. Et vous, vous êtes allé au fond à la quête de cette origine. Vous avez écrit ce livre parce que pendant 3 ans, je crois, ou 4 ans, vous avez tenu une rubrique de langage dans le journal Elle et que vous intéressiez déjà à ces problèmes. Et au fond, le livre est le prolongement cette rubrique. Nous allons donc parler de ce livre. Nous avons aussi avec nous aujourd'hui Marie-Françoise Hans. Marie-Françoise Hans qui est romancière et qui, à ce titre, s'intéresse aux problèmes de langage. Par conséquent, elle interviendra de temps en temps. Pour entrer immédiatement dans le vif des choses, je vais vous poser donc des questions, puisqu'au fond, votre livre est une sorte de dictionnaire, il y a des locutions, des expressions populaires, et vous racontez votre enquête. Il y en a une qui m'a intéressé, il y en a beaucoup qui m'ont intéressé, mais celle-ci, par exemple, reprendre du poil de la bête. Alors, d'où ça sort, ça?
Oui, ben ça, c'est une très vieille locution qui d'ailleurs a ses origines chez les Latins, probablement et peut-être plus, enfin sûrement et probablement plus ancienne.
Et dans ce sens-là.
Dans le sens de lorsque on est mordu par un chien enragé, et ça se trouve dans Pline, c'est Pline qui raconte ça. On prend, si vous voulez, il faut arracher des poils à la bête qui vous a mordu. Au chien qui vous a mordu, et le coller sur la plaie.
Ah bon, c'est un vaccin. Donc voilà, le Pasteur, par exemple, oui. Il a repris du poil de la bête.
Oui, c'est ça. Je crois d'ailleurs que les Romains, ils le faisaient brûler, ce poil, avant de le mettre, ce qui est effectivement beaucoup plus prudent que de le mettre tout sale. Mais c'est, la locution, reprendre du poil de la bête, maintenant on dit reprendre du poil de la bête, jusqu'au XVIIe siècle inclus, même au XVIIIe, ça s'employait aussi plus plus généralement pour reboire un coup après une cuite, si j'ose me permettre. C'est-à-dire,
oui, parce qu'on se guérit comme ça.
Voilà, c'est-à-dire reboire le matin quand on a fait la fête le soir et qu'on a un peu mal à la tête, ça fait passer. Et les Anglais l'emploient aussi dans ce sens-là.
Donc prendre du bois de la bête, au fond, ça veut dire soigner le mal par le mal.
C'est ça, exactement.
Marie-Françoise Danse.
Oui, alors le livre s'ouvre sur une série, Les Plaisirs, et dans cette anthologie donc, d'expressions populaires qui sont souvent coquines, ce qui paraît assez normal, avec un petit peu paillarde, des jeux de mots, dans la tradition Moyen-Âge et Rabelais. D'ailleurs, vous citez souvent le roman du comte d'Anjou, avec la pauvre fille qui doit fuir son père.
Oui.
Vous citez aussi le roman de Renard,
oui.
Pantagruel, Gargantua. Et la première expression, eh bien, c'est celle qui donne au livre son titre, c'est « la puce à l'oreille », parce qu'apparemment, une expression tout à fait anodine est en fait un sens qui est drôle, cocasse, inattendu, assez charmant.
Oui, alors mettre la puce à l'oreille, ça veut dire maintenant alerter quelqu'un, l'avertir. J'ai entendu parler de ça et ça m'a mis la puce à l'oreille sur
méfiance,
etc. Bon. Alors, l'origine est très ancienne. Elle remonte au moins au XIIIe siècle. Et on a des citations du début du XIVe siècle. Alors, apparemment, l'origine est celle d'un tourment très très violent.
De démangeaisons amoureuses.
Oui, non, attends. Et ça c'est le deuxième sens qui s'est glissé, qui existait déjà au Moyen-Âge. Mais le sens premier est sans aucun doute le fait que si vous attrapez, si une puce s'introduit dans le conduit auditif, ça m'est jamais arrivé personnellement, mais ça fait, paraît-il, très très mal. Non seulement ça irrite, mais c'est une torture effroyable parce que c'est amplifié. Ouais. Et en fait, c'est très difficile à enlever. Il faut y mettre une pommade. Enfin, c'est assez compliqué. Et c'est, paraît-il, très douloureux. Et ça est devenu le synonyme de tourment. Et du sens de tourment, ça a pris donc très tôt, à partir du XIIIe siècle aussi, le sens de tourment amoureux pour vouloir dire avoir des démangeaisons amoureuses, des chatouilles amoureuses pendant 4 ou 5 siècles, c'est-à-dire jusqu'au XVIIIe siècle. Je pense d'ailleurs que il y a un titre de Feydeau, il y a une pièce de Feydeau qui s'appelle La puce à l'oreille, et je pense que Feydeau devait savoir ça, cette origine un petit peu leste, enfin érotique quoi.
C'est ça. Une autre expression qui m'a amusé, être dans de beaux draps.
Oui. Alors là, je crois avoir apporté quelque chose de neuf par rapport à la recherche même, c'est-à-dire qu'on considère généralement qu'être dans des beaux draps, qui veut dire être dans une situation fâcheuse, n'est-ce pas, est une antiphrase, c'est-à-dire, on dit de beaux draps pour de mauvais draps, quoi.
Oui, oui.
Alors que c'est pas une antiphrase, ça, j'ai découvert que d'abord, on disait jusqu'au XVIIe siècle être dans de beaux draps blancs,
oui.
Et pas de beaux draps, l'expression s'est raccourcie. Et de beaux draps blancs, pourquoi ? Eh bien parce que ça fait allusion à une pratique d'amende honorable pour l'adultère au Moyen-Âge. Une pénitence. C'est-à-dire qu'on obligeait les gens surpris et convaincus d'adultère, pris sur le fait, à se tenir dans le cœur de l'Église enveloppés de draps blancs. Le drap blanc, purification, etc. Alors, il reste une petite ambiguïté. Est-ce que ce sont des habits blancs ? Parce que drap, jusqu'au XVIe siècle, a voulu dire aussi bien drap de lit que vêtements, que habits. Je pense, quant à moi, que c'est plutôt un drap de lit. Parce qu'il était difficile d'avoir des vêtements blancs, de toute façon. Et donc l'expression « être dans de beaux draps », ça veut dire être dans de beaux draps blancs, s'être mis dans une situation extrêmement fâcheuse où il faut, n'est-ce pas, on est la risée, l'opprobre de tout le monde.
Bien, vous avez dit, je crois avoir apporté quelque chose de neuf par rapport à ce que l'on savait. Et nous avons commencé par des exemples, mais je voudrais aussi qu'on parle un petit peu du sens profond de ce livre, parce que ça n'est pas seulement un livre d'amusement, un livre de curiosité, c'est aussi un livre de recherche sur le langage et, d'une certaine manière, un petit peu de recherche sur l'histoire, enfin, sur les mentalités. Alors, votre préface en parle assez longuement de cela, et j'aimerais bien que vous nous disiez un petit peu ce que ça représente pour vous, cette quête?
Eh bien, ça représentait, ça représentait un travail énorme, d'abord. Parce que vous doutez bien que ça suppose des lectures et des mises en fiche assez folles, d'ailleurs. Et puis aussi parce que les locutions, si vous voulez, les expressions populaires, ce sont vraiment des choses qui s'apprennent, qui se transmettent de siècle en siècle. C'est ça qui est fascinant, et non pas tellement par les livres, surtout à partir d'une certaine époque, surtout à partir du XVIIIe siècle, mais par oralement. C'est la partie du langage qui fait partie de la tradition orale. Oui. Si vous voulez, on l'apprend de sa mère, on l'apprend enfant. Les locutions. Je sais pas, bon, moi, c'est vrai, prenez une vie de barreau de chaise, une vie de bâton de chaise, etc. Ce ne sont pas des choses que l'on a appris en lisant, mais qui font partie d'un espèce de fond commun extrêmement ancien, en fait. Et c'est dans ce sens que ça m'intéresse beaucoup. Et d'ailleurs, vous remarquerez que les écrivains qui ont un style que j'appellerais concret, que moi j'aime bien, enfin, que je tendrais à dire un style vivant, emploient des locutions, alors que, bon, les gens qui écrivent d'une façon un peu plus, distanciée, etc., et que quelquefois j'ai tendance à trouver ennuyeuse, n'emploie pas.
Oui, là, c'est l'auteur de Parler Croquant qui est en train de revenir à tout aller.
Oui, mes opinions personnelles que...
Et ces expressions, soit dans leur forme, soit dans leur sens, elles restent stables au long des siècles, par exemple, ou bien il y a des flexions?
Elles restent pas stables. Elles varient de sens. Bon, comme la puce à l'oreille, plus personne ne sait que c'est une expression grivoise. Mais ce qui me frappe, moi, c'est la rémanence quand même, c'est leur durée, parce que il y en a qui sont, on parlait tout à l'heure d'être dans de beaux draps, effectivement, l'expression s'est un peu abrégée, mais
elle demeure
dans son sens, y compris mener une vie de bâton de chaise, etc. quoi. Évidemment, ce qu'il y a, ce sont ce qu'on appelle des remotivations. Des démotivations, c'est-à-dire, par exemple, vous prenez trier sur le volet. Quelqu'un de... On a choisir des choses soigneusement. Bon, alors, on pense, qu'il s'agit d'un volet de fenêtre. Et j'ai même reçu de la correspondance me disant que mon grand-père disait, m'écrit une dame, que autrefois on rabattait les auvents des boutiques et puis on pouvait, les femmes trier des choses là-dessus. Ce qui est totalement faux parce que ces auvents des boutiques se sont jamais appelés des volets. Les volets, ce sont des choses qui cachent à l'intérieur. Ce sont les volets intérieurs du XVIIe siècle et que les choses extérieures s'appelaient des contrevents. Bon. Cela dit, il y a en fait, le volet, c'est un petit tamis sur lequel on triait les pois et les graines et les choses comme ça. Alors, il y a des remotivations, c'est-à-dire l'expression est compris, le mot ayant changé de sens.
C'est un des aspects passionnants de cet ouvrage et de ce type de recherche, d'ailleurs, c'est que, outre l'aspect proprement linguistique, il y a un aspect d'histoire familière, de vie quotidienne passé. Il y a des tas de détails qui, brusquement, nous sautent à la figure et qui sont souvent délicieux et oubliés.
C'est ça qui me fascine, moi,
Et en particulier, moi, je pense à Tire-Larigot. Parce que c'est une comme vous dites, c'est très controversé d'abord, et ça, ça m'a beaucoup amusée. C'est obscur, vous donnez quantité d'explications, dont la vôtre, d'ailleurs. Souvent, il vous arrive de dire, eh bien, je conclurai en donnant la mienne, après tout, pourquoi pas, elle est aussi jolie qu'une autre.
Ce sont des hypothèses, d'ailleurs. Je fais remarquer que chaque fois, il faut être très sérieux, c'est-à-dire que je crois avoir annoncé très très clairement ce qui est certain et ce qui est probable et ce qui est carrément incertain. C'est-à-dire que lorsqu'on n'a pas de texte très précis, on ne peut faire que des hypothèses. Alors, les hypothèses sont intéressantes d'abord parce qu'elles font plaisir, et ensuite parce que ce sont des hypothèses de travail que l'on peut espérer vérifier. Mmh. Enfin, ça reste des hypothèses. À dire Larigot, c'est très probablement le Larigot étant un instrument de musique, une petite flûte. Au 15e et au 16e siècle, c'est boire comme un joueur de flûte, je pense.
Il y avait fort mauvaise réputation.
Il n'y a pas une histoire de haricots de mouton, là ?
Ça c'est
autre chose.
C'est autre chose.
Le haricot de mouton, non. L'histoire du haricot, c'est la fin des haricots, là.
C'est la fin des haricots. Et ça, c'est le haricot de mouton qui n'est pas le haricot, mais qui est un ragoût.
Ah oui, le haricot de mouton est un ragoût jusqu'au 17e siècle. Et.
Quand l'avare parle de préparer un haricot de mouton, c'est ce sens-là.
C'est un ragoût. Et vous avez entendu dire que le mot argot viendrait de haricot, de haricot de mouton, justement ?
Non.
Il paraît que c'est une des origines possibles du mot argot. Je ne sais pas si c'est vrai. Il y a une autre expression dont vous éclairez beaucoup le sens, ou plutôt l'origine, c'est « fier comme un pou », oui.
Ah oui, ça c'est très simple, parce que pou est une forme de poulet, c'est le masculin de poule.
Donc c'est pas le pou, la petite bête.
C'est pas la petite bête, ça aussi c'est une sorte de remotivation, comme je disais tout à l'heure. C'est le coq, c'est fier comme un coq.
C'est ça. Eh bien, moi je vais vous dire que je connais une remotivation pour fier comme un pou, parce que chez moi, on ne dit pas fier comme un pou, chez moi, dans mon pays, vraiment, dans ma ville, enfin indigne. On ne dit pas fier comme un pou, on dit fier comme un pou sur la tête du pape. Et à ce moment-là, elle devient tout à fait logique, cette expression. Parce qu'effectivement, le pou qui a réussi à grimper sur la tête du pape, par rapport aux pou qui n'ont grimpé que sur la tête d'un cardinal ou de je ne sais qui, il est beaucoup plus vaniteux.
Oui, ça c'est une remotivation... Oui, à nouveau.
C'est ça, mais vous n'y accordez aucun crédit, ça ne peut pas venir de là.
Non, pas du tout.
Non, parce qu'il aurait pu y avoir une perte de ce pape, comme il y a eu une perte du drap blanc.
Non, mais je pense que c'est parce que Digne est près d'Avignon, relativement.
Il y avait les papes d'Avignon.
Les papes étaient pouilleux, sûrement, à l'époque. Tout le monde était pouilleux autrefois, on a oublié ça.
C'est ce que vous dites, d'ailleurs, en présentant l'expression. Oui. Effectivement, on trouvait des poux sur les plus sucrées demoiselles.
Ben oui, ça revient, remarquez, ça revient lentement.
Ah oui. Alors nous avons encore le rire jaune.
Le rire jaune, c'est à cause de la couleur de Judas. C'est une très vieille chose.
Il était jaune.
Oui, c'est-à-dire que le jaune est la couleur du traître, à cause de la couleur du soufre, etc. Et que il a été attribué à Judas sur les vitraux du Moyen-Âge, etc. Et de là vient non seulement le rire jaune, un rire pas franc, mais tout ce qui est attribué au jaune, c'est-à-dire les jaunes des briseurs de grève et aussi la fameuse étoile jaune des Juifs de sinistre mémoire, voyez.
Oui. Et par exemple, alors toutes les expressions un jaune, ça vient toujours de Judas.
Ça vient de cette valeur symbolique du jaune, de la couleur jaune.
Mais
au
pourtant,
Moyen-Âge.
Le jaune, c'est aussi l'or. Enfin, c'est aussi une couleur.
C'est aussi l'or. C'est assez. Mais seulement, c'est un jaune. L'or, c'est pas le même jaune, quoi. C'est le jaune pâle qui est
le jaune bilieux.
Voilà.
Votre jaune à vous.
Alors, nous retrouvons le jaune dans une autre expression. Vous ne les mettez pas en rapport, mais enfin là, immédiatement, je m'en aperçois d'endorer la pilule. Alors là, c'est encore du jaune, mais il a un autre sens.
C'est un autre sens, oui. Ça, c'est simplement parce qu'on les enveloppait dans une feuille d'or, paraît-il.
C'était pour que ce soit moins désagréable.
Oui, pour que ce soit moins désagréable au goût.
Un petit peu comme les personnes qui font du mauvais fromage, par exemple, les enveloppes du poivre, des
feuilles
de châtaignier,
toutes
sortes de choses. Et nous avons deux pieds en cap aussi.
Oui, ben c'est de le cap, c'est parce qu'il y a beaucoup de locutions qui viennent d'autres langues et en particulier de l'occitan. Cap, c'est l'occitan pour tête et on disait être habillé de
c'est
pied
le
en
latin,
cap.
Non, aussi.
C'est ça, oui.
Vous avez encore qu'est-ce que vous avez encore? Avoir la berlue, oui.
Oui, ben ça c'est ce sont des petits troubles de la vue, ça c'est très ancien. On a dit barlu, berlu, etc.
Et puis alors, il y a des saints aussi, il y a des saints mystérieux. Il y a Saint-Glinglin.
Ah oui, Saint-Glinglin, c'est un jeu de mots du XIIIe siècle où saint signifiait une cloche. C'était la cloche. Donc le Saint-Glinglin, c'est le saint qui fait glinglin, c'est-à-dire c'est la cloche qui sonne.
Oui. Et par exemple, se vouer à tous les saints ou ne plus savoir à quel saint se vouer, ça n'est pas le même sens du tout.
Ah non, ça c'est vraiment le saint de l'Église, oui. Ça pourrait être un autre saint, mais enfin c'est pour les bébés. C'est comme les bébés ne parlent pas tant qu'ils sont à la mamelle, il n'y a aucune confusion possible.
Vous avez un rhume carabiné aussi.
Moi?
Non, pas vous, non. Vous avez un rhume carabiné dans votre livre.
Oui, ça c'est le... Ça, c'est du XVIe siècle, ça, c'est l'invention des carabines et des carabiniers qui étaient des troupes qui s'avançaient brutalement et qui se retiraient aussi vite. Et puis, à cause de cette image, on a parlé d'un vent carabiné, de rafale, et puis d'un rhume, une fièvre.
Dans l'ensemble, toutes ces expressions, les origines quand même puisent à quelques foyers en général. Hein. D'ailleurs, c'est au fond la division de votre livre. Il y a la guerre, par exemple, rhume carabiné, ça vient de...
C'est très riche comme source, la guerre.
La guerre, oui. Il y a l'amour, évidemment, ça ne peut être que très
bien
riche.
Bien entendu.
La gastronomie aussi, hein.
Oui, la table, oui.
Qu'est-ce qu'il y a encore?
Tout ce qui est plaisir, tout ce qui est...
Oui.
Ben, il semble que l'excitation il semble que les domaines d'excitation, enfin l'amour, la chasse, les jeux, etc., soient les sources les plus riches d'inventions verbales. Un petit peu comme de nos jours, le sport est une des sources les plus riches.
Il ne s'y ajoute pas, en tout cas pour le cas du langage de l'amour, que c'est une manière de parler discrètement, de façon occulte, de ce qui est interdit.
Sûrement.
Vous avez servi de chaperon aussi.
Sûrement.
Alors chaperon, qu'est-ce que c'est?
Le chaperon, c'est une coiffe... C'est une coiffe ancienne, alors qui était très portée au début du XVIIe siècle, et c'est un peu comme être collé monté, c'est-à-dire que c'est une personne un petit peu démodée qui suit une jeune fille. Ça se fait plus, ça. Ça se fait plus du tout.
Tant pis. Dommage, la mode passe. Prendre une biture, on en a parlé. Non, on n'a pas parlé de prendre une biture.
Non, c'est une expression d'origine maritime.
Oui.
La biture étant l'encablure prise par autour d'une bite. Une bite, ça, c'est pas ce qu'on croit. C'est l'endroit où on amarre le bateau avec une corde, avec un câble.
Dites-moi, Claude Duneton, avez-vous eu l'impression de faire un tabac?
De faire un tabac.
Pendant cette émission, est-ce que vous avez fait un tabac? Est-ce que vous avez fait un bide?
J'ai pas l'impression, mais j'espère n'avoir fait ni un tabac ni un bide.
Un tabac, vous pouvez espérer l'avoir fait quand même.
Je dirais, j'espère avec cette puce à l'oreille, avoir mis l'eau à la bouche. C'est tout ce que je peux dire.
Bien, c'était Claude Duneton. Nous avons parlé avec lui d'un livre qui vient de paraître aux éditions Stock, qui s'appelle « La puce à l'oreille », et ce livre, c'est une anthologie des expressions populaires avec leur origine. C'est au fond un livre qui recherche l'étymologie de ces locutions, de ces expressions que nous employons constamment et dont nous ne savons plus parfois le sens originel.
C'était Agora par Gilles Lapouge, avec aujourd'hui Claude Duneton pour son livre « La puce à l'oreille ». Cette émission a été diffusée pour la première fois le 23 novembre 1978 sur France Culture.